Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On vous accompagne ce matin, comme chaque mercredi, dans le monde de votre patrimoine, ces cœurs de patrimoine. Et on va tenter de vous donner, tiens, ce matin, une envie ou une idée d'investissement. Et on accueille Louis de Montalembert. Bonjour Louis.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Pléiade AM. Et on va parler d'un thème d'investissement, un mot que tout le monde prononce quasiment maintenant, facilement, c'est le cloud. D'abord, on peut commencer peut-être par un petit état des lieux. De quoi on parle quand on parle de cloud et qu'on se dit thème d'investissement, c'est-à-dire c'est Apple et son e-cloud, c'est Amazon et AWS, c'est quoi exactement?
Alors le cloud, c'est avant tout une infrastructure, donc quand on parle du cloud, les gens pensent à l'infrastructure et c'est une infrastructure qui est dominée par trois acteurs, parce qu'à l'origine en fait le cloud, ce sont des grands acteurs d'internet qui ont développé un réseau data center dans le monde avec une couche opérative pour leurs propres opérations, et en 2010 ils ont ouvert ça à des acteurs tiers. Mais donc, à l'origine, si vous regardez que l'infrastructure, il y a trois acteurs qui ont 70% du marché. C'est Azure avec Microsoft, Google Cloud et évidemment AWS de Amazon. Donc, c'est pas là qu'on a la thèse d'investissement puisque ça, ce sont des entreprises protéiformes. C'est plutôt dans tout ce que j'appellerais la superstructure du cloud, qui sont les logiciels en SaaS, qu'on trouve une vraie thèse d'investissement.
Oui, parce que en fait, ce cloud, il a permis un développement extraordinaire de ce fameux SaaS.
Voilà, exactement. Alors, avant, on consommait le logiciel sous forme d'installation, on dit on-premise, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans les serveurs, et aujourd'hui, vous accédez à travers Internet, dans une fenêtre. En fait, l'ancêtre, c'est Salesforce. Hein. Tout le monde connaît ce type de logiciel qu'on utilise aujourd'hui directement sur le net de à peu près n'importe où. Et donc, il y a eu ce développement exponentiel de l'industrie du logiciel. D'abord, une transformation des acteurs existants et puis la naissance d'acteurs cloud native et surtout l'invasion du logiciel dans des interstices de l'économie où il n'était pas présent. L'exemple le plus simple, c'est peut-être DocuSign que vous connaissez. Enfin, plus personne ne signe un document papier, sauf quand c'est une banque qui vous envoie ça. Mais de manière générale, on ne signe plus de documents papier, on fait DocuSign. Bon, bah, en fait, ça a permis au logiciel vraiment de s'insinuer absolument partout. Et ça permet, par exemple, à une entreprise comme Stellantis, qui fait des voitures, de dire qu'à l'horizon 2030, elle fera 20 milliards de chiffre d'affaires par le logiciel. Et donc, comment est-ce qu'elle peut faire 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires récurrent en logiciel? C'est grâce au cloud. Mais ça va jusqu'à une entreprise américaine qui n'est pas cotée, celle-ci, mais qui fait déjà près de 200 millions de revenus récurrents, qui s'appelle Sense, qui est le cloud pour les lavomatiques. On ne peut pas imaginer plus loin de la technologie quand on parle du cloud des lavomatiques. Et pour autant, quand vous branchez sur le cloud une machine à laver, ça permet à l'opérateur de savoir où est-ce qu'il en est de ses maintenances prédictives, où est-ce qu'il en est de ses consommables, de fournir un moyen de paiement à ses clients. Hein. On n'est plus dans la piécette, oui, on est dans la fente. Oui. De fournir une app à ses clients qui peuvent retenir un lave-linge, savoir où est-ce qu'ils en sont du cycle de lavage, alimenter sa comptabilité. En fait, le cloud permet de digitaliser toutes sortes de business models. Et juste un dernier point, Sense que je viens de décrire, c'est Doctolib. Doctolib, c'est la même chose. Pour les praticiens de santé, automatiser les prises de rendez-vous, l'assurance maladie, etc.
Ça veut dire que, enfin, je vais faire un petit peu le neuneu de service, mais ça veut dire que dès qu'il y a une app pour ça, c'est qu'on est dans ce cloud, dans ce SaaS, dans ce...
Tout à fait. Alors moi, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est vraiment le cloud B2B. Parce ça passe par là. Le cloud B2B, aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle vague de digitalisation des entreprises. On est à moins de 20% aujourd'hui de pénétration du cloud dans l'IT des entreprises au niveau mondial. Et donc, il y a des gains de productivité absolument faramineux parce que le cloud est de manière générale plus flexible, moins cher, propose plus de fonctionnalités que des applicatifs qu'on appelle legacy, c'est-à-dire à l'ancienne. Et donc, on est dans une pénétration attendue par Gartner qui devrait atteindre 36% à horizon 2030. Ça fait à peu près 17% de croissance par an de cette vague de digitalisation de l'entreprise.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'investisseur, entre guillemets, de... de voir certains se cacher, enfin faire du faux cloud, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme certains ont dit qu'ils faisaient de l'ESG ou de l'ISR alors qu'ils en faisaient pas vraiment. Que on se souvient tous de la vague des dot-com où il suffisait de prendre n'importe quel projet et de lui coller dot-com pour que ça fasse des miracles en bourse. Il n'y a pas ce risque de voir une boîte dire bah si si maintenant je suis dans le cloud et du coup.
Alors ils peuvent toujours le dire.
Décevoir entre guillemets.
Ils peuvent toujours le dire. Mais enfin, ça se mesure parce que le cloud, c'est vraiment pour le client la capacité à accéder à un logiciel de n'importe où. Et donc, on voit beaucoup d'acteurs dits legacy. Je pense à SAP, qui est un géant du logiciel, pour le coup, a une vraie stratégie de passer sur le cloud. Et ils sont presque à 50% de leur chiffre d'affaires. En fait, on le voit dans la récurrence du chiffre d'affaires. Ils sont presque à 50% sur le cloud. Donc, c'est une vraie réussite. En revanche, un Dassault Systèmes, c'est une part beaucoup plus infime de son chiffre d'affaires. Après, vous avez dans les gens qui se clament cloud, vous avez effectivement OVH Cloud. Mais on peut se poser des questions de savoir si ce n'est pas juste du data center, c'est-à-dire du stockage de données et du cloud. Mais de manière générale, dans le logiciel, on ne peut pas tromper son monde. Hein. Et il faut mieux s'intéresser à des acteurs montants qu'on appelle cloud native, c'est-à-dire qui ont été fabriqués sur le cloud, plutôt que des acteurs qui sont en transition, même si je trouve que SAP est une boîte très intéressante.
Et du coup, ça rime, ça doit rimer, ça rimera. C'est imbriqué avec l'IA, avec tout ce qui touche à ChatGPT.
Alors, c'est mieux que rimer, c'est que c'est l'avenir, le cloud de l'IA générative. C'est-à-dire que on comprend que le cloud est une infrastructure mature et c'est le canal de diffusion. Aujourd'hui, si vous utilisez ChatGPT, vous passez par le cloud. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas votre usage de ChatGPT, c'est le fait que la diffusion de l'IA générative se fera par le logiciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un logiciel ? C'est jamais qu'une interface homme-machine. Et l'IA générative, c'est l'outil ultime pour automatiser un certain nombre d'actions de l'homme dans le logiciel. Et donc, comme tout le jeu du logiciel, pourquoi est-ce qu'une entreprise achète un logiciel ? C'est pour son retour sur investissement. C'est parce qu'elle fait des gains de productivité. Le logiciel cloud native permet encore plus de gains de productivité. Et l'IA générative, c'est encore l'outil qui permet d'ajouter encore des gains de productivité. En fait, je vous donne un exemple sur le codage. Aujourd'hui, on estime que les outils de codage, GitHub ou GitLab, qui sont des outils cloud, permettent de réduire ou des gains de productivité de l'ordre de 40% pour des codeurs. Oui. C'est-à-dire de proposer du code automatique, des corrections automatiques, de traduire des pages entières de code en langage naturel, ce qui permet de passer du code d'un développeur à un autre sans qu'il ait à relire toutes ce langage cryptique. Donc, des gains de 40%. Donc, ça veut dire que forcément, je veux avoir de l'IA générative dans mon outil logiciel.
Et toutes ces boîtes qui émergent, qui se développent, qui grandissent dans ce monde-là, on les trouve chez nous, on les trouve encore une fois essentiellement aux États-Unis. Comment est-ce qu'on... Enfin, ça demande quand même une certaine connaissance fine, j'imagine.
J'adorerais vous dire qu'elles sont toutes françaises, mais ce n'est pas vrai. Okay, aujourd'hui, on les trouve essentiellement aux États-Unis. C'est là que vous avez d'abord eu les acteurs de l'infrastructure. Vous avez des grands acteurs du logiciel. Alors, il y a des champions français qui se battent, mais un peu à la française. Hein, on a vu la cotation de Planisware. Planisware, c'est une boîte ultra rentable, mais qui fait que 150 millions de dollars de chiffre d'affaires et croît qu'à 18%. Les acteurs américains ont cette vraie culture de la conquête. Or, ce sont des marchés à conquérir. Je vous donne un exemple. Une entreprise française américaine qui s'appelle Snowflake, qui a été fondée par des Français aux États-Unis, ne faisait que 97 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018, a fait 2,8 milliards l'année dernière. Ils n'ont pas cherché à être rentables des 150 millions, ils ont cherché à conquérir 5 ans pour passer de presque 100 millions de dollars à 2,8 milliards. Donc c'est forcément là, dans la conquête de l'Ouest, les gens qui ont cette culture-là, qu'on trouve les entreprises les plus dynamiques.
Donc, on fouille à Wall Street, on fouille dans le Nasdaq.
Ouais. Alors, c'est une thématique qui a été un peu délaissée en début d'année parce qu'on est dans l'instant hardware de l'IA générative. Aujourd'hui, c'est l'IA générative qui capte toute la lumière et donc tous les flux sur... les semi-conducteurs, pardon, qui captent tout le flux sur l'IA générative. Pour nous, ça n'aura qu'un temps puisque c'est de l'équipement. Il faut se souvenir que les quatre principaux clients, premiers clients de NVIDIA, représentent 50% de son chiffre d'affaires. c'est de l'équipement. Mais la phase de diffusion de l'IA générative, c'est véritablement le logiciel. Le moment où vous et nous, on va l'utiliser, c'est à l'intérieur des logiciels qu'on utilise au quotidien. Mais ça met un peu plus de temps à se voir, puisqu'on est sur une thématique de chiffre d'affaires récurrent. Il faut savoir que c'est de l'abonnement, donc c'est 100% récurrent, avec très peu d'attrition. Et par conséquent, les points d'inflexion sont beaucoup moins brutaux que, comme on peut le voir dans les semi-conducteurs, où tout d'un coup, il y a une grande phase d'équipement.
Il y en a beaucoup, mais, et puis d'un seul coup, il n'y en aura plus.
Voilà, mais au deuxième semestre, on va commencer à avoir de l'impact sur les chiffres d'affaires. 2025, ça va être beaucoup plus visible. Donc, c'est vraiment une thématique d'avenir, avec des entreprises en général qui sont dotées de trésorerie nette absolument pléthorique, qui génèrent du cash parce que c'est des abonnements payés d'avance. Donc, c'est vraiment, en termes de sûreté et de prise de risque, c'est très mitigé.
Eh bien voilà, une idée peut-être pour booster vos investissements dans ce monde action. Merci beaucoup Louis de nous avoir fait voyager un petit peu dans ce cloud en nous initiant au bon sens du terme sur ces quelques données qui sont parfois un petit peu loin effectivement de notre monde commun. Merci et à très bientôt.
Je vous en prie,
sur Radio Patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.